La courbe de Kuznets. Une bonne nouvelle au temps de la guerre froide. À dire vrai, Kuznets lui-même est parfaitement conscient du caractère largement accidentel de cette compression des hauts revenus américains entre 1913 et 1948, qui doit beaucoup aux multiples chocs entraînés par la crise des années 1930 et la Seconde Guerre mondiale, et n'a pas grand-chose à voir avec un processus naturel et spontané. Dans son épais volume, publié en 1953, Kuznets analyse ses séries dans le détail et met en garde le lecteur contre toute généralisation hâtive. Mais en décembre 1954, dans le cadre de la conférence qu'il donne comme président de l'American Economic Association, réunie en congrès à Détroit, il choisit de proposer à ses collègues une interprétation beaucoup plus optimiste des résultats de son livre de 1953. C'est cette conférence publiée en 1955 sous le titre « Croissance économique et inégalité du revenu » qui va donner naissance à la théorie de la courbe de Kuznets. Selon cette théorie, les inégalités seraient partout appelées à suivre une courbe en cloche, c'est-à-dire d'abord croissante puis décroissante, au cours du processus d'industrialisation et de développement économique. D'après Kuznets, à une phase de croissance naturelle des inégalités caractéristiques des premières étapes de l'industrialisation et qui aux États-Unis correspondrait grosso modo au XIXe siècle, succéderait une phase de forte diminution des inégalités qui aux États-Unis aurait commencé au cours de la première moitié du XXe siècle. La lecture de ce texte de 1955 est éclairante. Après avoir rappelé toutes les raisons d'être prudent, et l'importance évidente des chocs exogènes dans la baisse récente des inégalités américaines, Kuznets suggère, de façon presque anodine, que la logique interne du développement économique, indépendamment de toute intervention politique et de tout choc extérieur, pourrait également conduire au même résultat. L'idée serait que les inégalités s'accroissent au cours des premières phases de l'industrialisation. Seule une minorité est à même de bénéficier des nouvelles richesses apportées par l'industrialisation, avant de se mettre spontanément à diminuer lors des phases avancées du développement. Une fraction de plus en plus importante de la population rejoint les secteurs les plus porteurs, d'où une réduction spontanée des inégalités. Cette courbe est parfois appelée « courbe en U inversée ». Le mécanisme spécifique décrit par Kuznets repose sur l'idée d'un transfert progressif de la population d'un secteur agricole pauvre vers un secteur industriel riche. Mais il va de soi que ce mécanisme hautement stylisé peut prendre une forme plus générale, par exemple sous la forme de transferts progressifs de main-d'œuvre entre différents secteurs industriels ou différents emplois plus ou moins porteurs, etc. Ces phases avancées aurait commencé à la fin du 19e ou au début du 20e siècle dans les pays industrialisés et la compression des inégalités survenues aux États-Unis au cours des années 1913-1948 ne ferait donc que témoigner d'un phénomène plus général que tous les pays, y compris les pays sous-développés, présentement empêtrés dans la pauvreté et la décolonisation, devraient en principe être amenés à connaître un jour ou l'autre. L'effet mis en évidence par Kuznets dans son livre de 1953 deviennent subitement une arme politique de grande puissance. Il est intéressant de noter que Kuznets n'a pas de série démontrant la hausse des inégalités au XIXe siècle, mais que cela lui semble une évidence, comme à la plupart des observateurs de l'époque. Kuznets est parfaitement conscient du caractère hautement spéculatif d'une telle théorie. Il reste qu'en présentant une théorie aussi optimiste dans le cadre de sa « Presidential Address » aux économistes américains, qui étaient tout disposés à croire et à diffuser la bonne nouvelle apportée par leurs prestigieux confrères, Kuznets savait qu'il aurait une influence énorme. La courbe de Kuznets était née. Afin de s'assurer que tout le monde avait bien compris de quoi il était question, Kuznets prit d'ailleurs soin de préciser que l'enjeu de ses prédictions optimistes était tout simplement le maintien des pays sous-développés dans l'orbite du monde libre. Dans une très large mesure, la théorie de la courbe de Kuznets est le produit de la guerre froide. Que l'on me comprenne bien, Le travail réalisé par Kuznets pour établir les premiers comptes nationaux américains et les premières séries historiques sur les inégalités est tout à fait considérable. Et il est évident à la lecture de ses livres, davantage que de ses articles, que Kuznets avait une véritable éthique de chercheur. Par ailleurs, la très forte croissance que connaissent tous les pays développés dans l'après-guerre est un événement fondamental, et le fait que tous les groupes sociaux en aient bénéficié l'est encore plus. Il est bien normal qu'un certain optimisme ait prévalu pendant les Trente Glorieuses et que les prédictions apocalyptiques du XIXe siècle sur la dynamique de la répartition des richesses aient perdu en popularité. Il n'en reste pas moins que la théorie enchantée de la courbe de Kuznets a été formulée en grande partie pour de mauvaises raisons et que son soubassement empirique est extrêmement fragile. Nous verrons que la forte réduction des inégalités de revenus qui se produit un peu partout dans les pays riches entre 1914 et 1945 est avant tout le produit des guerres mondiales et des violents chocs économiques et politiques qu'elles ont entraînés, notamment pour les détenteurs de patrimoines importants, et n'a pas grand-chose à voir avec le paisible processus de mobilité intersectorielle décrit par Kuznets. Remettre la question de la répartition au cœur de l'analyse économique. La question est importante, et pas seulement pour des raisons historiques. Depuis les années 1970, les inégalités sont fortement réparties à la hausse dans les pays riches, notamment aux États-Unis, où la concentration des revenus a retrouvé dans les années 2000-2010, voire légèrement dépassé, le niveau record des années 1910-1920. Il est donc essentiel de bien comprendre pourquoi et comment les inégalités avaient diminué la première fois. Certes, la très forte croissance des pays pauvres et émergents, et notamment de la Chine, est potentiellement une puissante force de réduction des inégalités au niveau mondial, de même que la croissance des pays riches pendant les Trente Glorieuses. Mais ce processus génère de fortes inquiétudes au sein des pays émergents, et plus encore au sein des pays riches. Par ailleurs, les impressionnants déséquilibres observés ces dernières décennies sur les marchés financiers, pétroliers et immobiliers, peuvent assez naturellement susciter des doutes quant au caractère inéluctable du sentier de croissance équilibrée décrit par Solow et Kuznets, et selon lequel tout est censé progresser au même rythme. Le monde de 2050 ou de 2100 sera-t-il possédé par les traders, les supercadres et les détenteurs de patrimoine importants, ou bien par les pays pétroliers, ou encore par la Banque de Chine, à moins que ce ne soient pas des paradis fiscaux abritant d'une façon ou d'une autre l'ensemble de ces acteurs? Il serait absurde de ne pas se poser la question, et de supposer par principe que la croissance est naturellement équilibrée à long terme. D'une certaine façon, nous sommes en ce début du XXIe siècle, dans la même situation que les observateurs du XIXe. Nous assistons à d'impressionnantes transformations, et il est bien difficile de savoir jusqu'où elles peuvent aller et à quoi ressemblera la répartition mondiale des richesses entre les pays comme à l'intérieur des pays à l'horizon de quelques décennies. Les économistes du XIXe siècle avaient un immense mérite. Ils plaçaient la question de la répartition au cœur de l'analyse, et ils cherchaient à étudier les tendances de long terme. Leurs réponses n'étaient pas toujours satisfaisantes, mais au moins se posaient-ils les bonnes questions. Nous n'avons dans le fond aucune raison de croire dans le caractère auto-équilibré de la croissance. Il est plus que temps de remettre la question des inégalités au cœur de l'analyse économique et de reposer les questions ouvertes au XIXe siècle. Pendant trop longtemps, la question de la répartition des richesses a été négligée par les économistes, en partie du fait des conclusions optimistes de Kuznets, et en partie à cause d'un goût excessif de la profession pour les modèles mathématiques simplistes dits à agents représentatifs. Dans ces modèles, qui se sont imposés dans la recherche comme dans l'enseignement de l'économie depuis les années 1960-1970, on suppose par construction que chacun reçoit le même salaire, possède le même patrimoine et dispose des mêmes revenus, si bien que par définition, la croissance bénéficie dans les mêmes proportions à tous les groupes sociaux. Une telle simplification de la réalité peut se justifier pour étudier certains problèmes très spécifiques, mais limite évidemment de façon drastique l'ensemble des questions économiques que l'on peut se poser. Et pour remettre la répartition au cœur de l'analyse, il faut commencer par rassembler le maximum de données historiques, permettant de mieux comprendre les évolutions du passé et les tendances en cours. Car c'est d'abord en établissant patiemment des faits et des régularités, et en confrontant les expériences des différents pays, que nous pouvons espérer mieux cerner les mécanismes en jeu et nous éclairer pour l'avenir. Les sources utilisées dans ce livre. Ce livre s'appuie sur deux grands types de sources permettant d'étudier la dynamique historique de la répartition des richesses. Les unes portant sur les revenus et l'inégalité de leur répartition, et les autres portant sur les patrimoines, leur répartition, et le rapport qu'ils entretiennent avec les revenus. Commençons par les revenus. Dans une large mesure, mon travail a simplement consisté à étendre à une échelle spatiale et temporelle plus vaste le travail novateur et pionnier réalisé par Kuznets pour mesurer l'évolution de l'inégalité des revenus aux États-Unis de 1913 à 1948. Cette extension permet de mieux mettre en perspective les évolutions constatées par Kuznets, qui sont bien réelles, et conduit à remettre radicalement en cause le lien optimiste qu'il établit entre développement économique et répartition des richesses. Étrangement, le travail de Kuznets n'avait jamais été poursuivi de façon systématique, sans doute en partie parce que l'exploitation historique et statistique de la source fiscale tombe dans une sorte de no man's land académique, trop historique pour les économistes et trop économique pour les historiens. Cela est dommage car seule une perspective de long terme permet d'analyser correctement la dynamique des inégalités de revenus, et seule la source fiscale permet d'adopter cette perspective de long terme. J'ai commencé par étendre les méthodes de Kuznets au cas de la France, ce qui a donné lieu à la publication d'un premier ouvrage en 2001, « Les hauts revenus en France au XXe siècle, inégalités et redistribution, 1901-1998 ». J'ai eu ensuite la chance de bénéficier du soutien de nombreux collègues, au premier rang desquels Anthony Atkinson et Emmanuel Seize, qui m'ont permis d'étendre ce projet à une échelle internationale beaucoup plus vaste. Anthony Atkinson a traité du cas du Royaume-Uni et de nombreux autres pays, et nous avons dirigé ensemble deux volumes publiés en 2007 et 2010, rassemblant des études similaires portant sur plus de 20 pays répartis sur tous les continents. Avec Emmanuel Seize, nous avons prolongé d'un demi-siècle les séries établies par Kuznets pour les États-Unis, et il a lui-même traité de plusieurs autres pays essentiels, comme le Canada et le Japon. De nombreux chercheurs ont contribué à ce projet collectif. Facundo Alvaredo a notamment traité du cas de l'Argentine, de l'Espagne et du Portugal. Fabien Dell, de celui de l'Allemagne et de la Suisse. Avec Abhijit Banerjee, j'ai étudié le cas de l'Inde. Grâce à Nancy Kian, j'ai pu traiter celui de la Chine, et ainsi de suite. Pour chaque pays, nous avons tenté d'utiliser les mêmes sources, les mêmes méthodes et les mêmes concepts. Les déciles et les centiles de hauts revenus sont estimés à partir des données fiscales issues des déclarations de revenus, après de multiples corrections pour assurer l'homogénéité temporelle et spatiale des données et des concepts. Le revenu national et le revenu moyen nous sont donnés par les comptes nationaux, qu'il a fallu parfois compléter ou prolonger. Les séries débutent généralement à la date de création de l'impôt sur le revenu, autour de 1910-1920 dans de nombreux pays, parfois dans les années 1880-1890, comme au Japon ou en Allemagne, parfois plus tard. Elles sont constamment mises à jour et vont actuellement jusqu'au début des années 2010. Au final, la World Top Incomes Database, WTID, issue du travail combiné d'une trentaine de chercheurs de par le monde, constitue la plus vaste base de données historiques disponible à ce jour sur l'évolution des inégalités de revenus et correspond au premier ensemble de sources mobilisées dans ce livre. Le second ensemble de sources, que je mobiliserai en réalité en premier dans le cadre de ce livre, concerne les patrimoines, leur répartition et les rapports qu'ils entretiennent avec les revenus. Les patrimoines jouent déjà un rôle important dans le premier ensemble de sources, à travers les revenus issus des patrimoines. Rappelons en effet que le revenu comprend toujours deux composantes. D'une part, les revenus du travail, salaire, traitement, prime, bonus, revenus du travail non salarié, etc., et autres revenus rémunérant le travail, quelle que soit leur forme juridique précise, et d'autre part, les revenus du capital, loyers, dividendes, intérêts, bénéfices, plus-values, royalties, etc., et autres revenus obtenus du simple fait de la détention d'un capital terrien, immobilier, financier, industriel, etc., quelle que soit là aussi leur forme légale. Les données issues de la WTID contiennent beaucoup d'informations sur l'évolution des revenus du capital au cours du XXe siècle. Il est cependant indispensable de les compléter par des sources portant directement sur les patrimoines. On peut distinguer ici trois sous-ensembles de sources historiques et d'approches méthodologiques tout à fait complémentaires les unes des autres. La WTID est actuellement en cours de transformation en une World Wealth and Income Database, intégrant ces trois sous-ensembles de données complémentaires. Tout d'abord, de la même façon que les déclarations de revenus issues des impôts sur les revenus permettent d'étudier l'évolution de l'inégalité des revenus, les déclarations de succession issues des impôts sur les successions permettent d'étudier l'évolution de l'inégalité des patrimoines. Cette approche a d'abord été introduite par Robert Lampman en 1962 pour étudier l'évolution des inégalités patrimoniales aux États-Unis de 1922 à 1956, puis par Anthony Atkinson et Alan Harrison en 1978 pour étudier le cas du Royaume-Uni de 1923 à 1972. Ces travaux ont récemment été mis à jour et étendus à d'autres pays comme la France et la Suède. Nous disposons malheureusement de moins de pays que pour les inégalités de revenus. Mais il est possible, dans certains cas, de remonter beaucoup plus loin dans le temps, souvent jusqu'au début du XIXe siècle, car la fiscalité successorale est beaucoup plus ancienne que la fiscalité des revenus. En particulier, nous avons pu, en rassemblant les données établies aux différentes époques par l'administration française et en collectant avec Gilles Postel-Vinet et Jean-Laurent Rosenthal, un vaste ensemble de déclarations individuelles dans les archives successorales, établir des séries homogènes sur la concentration des patrimoines en France depuis l'époque de la Révolution. Cela nous permettra de replacer les chocs causés par la Première Guerre mondiale dans une perspective historique beaucoup plus longue que les séries portant sur les inégalités de revenus, qui fort malencontreusement débutent souvent autour de 1910-1920. Les travaux réalisés par Jesper Roine et Daniel Waldenström à partir des sources historiques suédoises sont également riches d'enseignements. Les sources successorales et patrimoniales nous permettent également d'étudier l'évolution de l'importance respective de l'héritage et de l'épargne dans la constitution des patrimoines dans la dynamique des inégalités patrimoniales. Nous avons réalisé ce travail de façon relativement complète pour le cas de la France, dont les très riches sources historiques offrent un point de vue unique sur l'évolution de l'héritage sur la longue durée. Ce travail a été partiellement étendu à d'autres pays, en particulier au Royaume-Uni, à l'Allemagne, à la Suède et aux États-Unis. Ces matériaux jouent un rôle essentiel dans notre enquête, car les inégalités patrimoniales n'ont pas le même sens suivant qu'elles sont issues de l'héritage légué par les générations précédentes ou bien de l'épargne réalisée au cours d'une vie. Dans le cadre de ce livre, nous nous intéressons non seulement au niveau de l'inégalité en tant que telle, mais également et surtout à la structure des inégalités, c'est-à-dire à l'origine des disparités de revenus et de patrimoine entre groupes sociaux et aux différents systèmes de justification économique, sociale, morale et politique susceptibles de les conforter ou de les condamner. L'inégalité n'est pas nécessairement mauvaise en soi. La question centrale est de savoir si elle est justifiée, si elle a ses raisons. Enfin, les sources patrimoniales permettent d'étudier sur une très longue période l'évolution de la valeur totale du stock de patrimoine national, qu'il s'agisse du capital terrien, immobilier, industriel ou financier, mesuré en nombre d'années de revenus national du pays considéré. L'étude de ce rapport capital-revenu au niveau global est un exercice qui a ses limites. Il est toujours préférable d'analyser également l'inégalité des patrimoines au niveau individuel et l'importance relative de l'héritage et de l'épargne dans la constitution du capital, mais qui permet toutefois d'analyser de façon synthétique l'importance du capital au niveau d'une société considérée dans son ensemble. En outre, nous verrons qu'il est possible, en rassemblant et en confrontant les estimations réalisées aux différentes époques, de remonter pour certains pays, en particulier le Royaume-Uni et la France, jusqu'au début du XVIIIe siècle, ce qui nous permettra de replacer la révolution industrielle en perspective dans l'histoire du capital. Nous nous appuierons ici sur les données historiques que nous avons récemment rassemblées avec Gabriel Zucman. Dans une large mesure, cette recherche consiste simplement à étendre et à généraliser le travail de collecte de bilans patrimoniaux par pays, Country Balance Sheets, réalisé par Raymond Goldsmith dans les années 1970-1980. Par comparaison aux travaux antérieurs, la première nouveauté de la démarche développée ici est d'avoir cherché à rassembler des sources historiques aussi complètes et systématiques que possible afin d'étudier la dynamique de la répartition des richesses. Il faut souligner que j'ai bénéficié pour cela d'un double avantage par rapport aux auteurs précédents. Nous disposons par définition d'un recul historique plus important. Or, nous verrons que certaines évolutions longues n'apparaissent clairement que si l'on dispose de données portant sur les années 2000-2010, tant il est vrai que certains chocs causés par les guerres mondiales ont été longs à se résorber. Et nous avons pu, grâce aux possibilités nouvelles offertes par l'outil informatique, rassembler sans peine excessive des données historiques à une échelle beaucoup plus vaste que nos prédécesseurs. Sans chercher à faire jouer un rôle exagéré à la technologie dans l'histoire des idées, il me semble que ces questions purement techniques ne doivent pas être totalement négligées. Il était objectivement beaucoup plus difficile de traiter des volumes importants de données historiques à l'époque de Kuznets, et dans une large mesure jusqu'aux années 1980-1990 qu'il ne l'est aujourd'hui. Quand Alice Hanson-Jones rassemble dans les années 1970 des inventaires aux décès américains de l'époque coloniale, ou quand Adeline Domar fait de même avec les archives successorales françaises du XIXe siècle, il est important de réaliser que ce travail s'effectue pour une large part à la main, avec des fiches cartonnées. Quand on relit aujourd'hui ces travaux remarquables, ou bien ceux consacrés par François Simian à l'évolution des salaires au XIXe siècle, par Ernest Labrousse à l'histoire des prix et des revenus au XVIIIe siècle, ou encore par Jean Bouvier et François Furet au mouvement du profit au XIXe siècle, il apparaît clairement que ces chercheurs ont dû faire face à d'importantes difficultés matérielles pour collecter et traiter leurs données. Ces complications d'ordre technique absorbent souvent une bonne part de leur énergie, et semble parfois prendre le pas sur l'analyse et l'interprétation, d'autant plus que ces difficultés limitent considérablement les comparaisons internationales et temporelles envisageables. Dans une large mesure, il est beaucoup plus facile d'étudier l'histoire de la répartition des richesses aujourd'hui que par le passé. Le présent livre reflète en grande partie cette évolution des conditions de travail du chercheur.